Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné sous sa forme Extra Ball, notre petite sortie de route raccourcie mais savoureuse quand même, qui nous permet de prendre le temps d'aborder une sortie au Blu-ray ou au ciné, comme on va faire là tout de suite en causant de Pour les soldats tombés, le documentaire que signe Peter Jackson, dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Thomas.
Cénociné Extra Ball spécial Pour les soldats tombés, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Qu'est-ce que c'est que ce projet, Julien? Ce projet nouveau de Peter Jackson qui nous arrive au cinéma?
Alors, nouveau, oui et non. En fait, Peter Jackson, je pense qu'il a un rapport... je l'ai jamais entendu. Hein. C'est moi qui fais...
C'est ton analyse.
C'est mon analyse, mais je pense qu'il a un rapport particulier, en fait, au documentaire. Hein. C'est-à-dire que, oui. Déjà, c'est quelqu'un qui a toujours accordé une place monumentale au documentaire sur ses propres films. Mmh. Et ce, depuis Fantôme contre Fantôme, ouais. Où il y avait, je crois, un documentaire à l'époque de 12 heures. Ce qui était du jamais vu, hein,
oui,
je crois.
Complètement,
hein.
Oui.
Et ensuite, il a produit ensuite des documentaires. Il a fait un documentaire qui s'appelle Forgotten Silver, oui. Alors qu'il était en préparation du Seigneur des Anneaux. Et ça va être très, très intéressant parce qu'il a dit d'une part qu'il mettait un tout petit peu sa carrière en veille pour l'instant, mais il travaille aujourd'hui à un documentaire que j'attends énormément, moi, parce que j'aime beaucoup les Beatles. Sur les Beatles, il aurait trouvé apparemment des archives absolument ahurissantes. Sur les Beatles, lui-même est un fan hardcore. Oui. Hein, il y avait des citations, des bas de test, en fait, de Sergeant Pepper, enfin voilà, bref. Ouais. Et donc je pense que c'est ce qui est assez intéressant parce que Peter Jackson est quand même un cinéaste aussi qui s'est fait connaître pour être un cinéaste de l'imaginaire, un cinéaste qui reconstruit tout, qui travaille énormément sur le côté factice, en fait, de l'image. Et c'est un peu le cas aussi là. C'est-à-dire que le projet, en fait, de ce film, c'est... reprendre d'une part, il n'y a pas du tout d'interview posée. Ce ne sont que des interviews d'archives de vétérans de la Première Guerre mondiale, de poilus anglais ou néo-zélandais, je pense. Enfin, je ne suis pas trop sûr de ça.
C'est britannique essentiellement,
britannique,
je crois.
Ouais. En tout cas, il n'y a pas de Français.
Qui ont combattu en France et en Belgique.
Qui ont combattu en France et en Belgique, voilà. Ça, par contre, c'est conscrit à ça. Il n'y a rien sur l'aviation, par exemple. Rien sur l'Afrique, etc. Bon, bref. Et donc, ce sont ces témoignages-là qui ont été remontés, des remontages audio, et qui sont montés, en fait, sur des images vidéo qui ont été, pour une grosse partie, et une grosse partie seulement, et ça, c'est important, extrêmement restaurées, oui, par Weta Digital, qui est la société d'effets spéciaux de Peter Jackson. Alors, qu'est-ce que c'est cette restauration? C'est que il y a une chose à laquelle on est plutôt habitué, qui est une colorisation, oui, en fait, de ces images extrêmement précise. Hein. C'est-à-dire que là, la qualité, en fait, de la colorisation est assez incroyable. Enfin, tu sens qu'ils ont, je crois qu'ils sont allés rechercher des étoffes ou des bidons de l'époque
pour retrouver les textures,
voilà, et qu'ils ont scanné et tout, et ça se sent, c'est hallucinant. C'est sonorisé, et ça, c'est pour moi le point le moins convaincant. C'est-à-dire, oui, que tant qu'il y a les bruits d'ambiance et tout, ça va, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher des gens qui sont capables de lire sur les lèvres pour comprendre, en fait, ce que les soldats étaient en train de se dire à l'image, et pour les doubler. Je trouve que le pari est à moitié réussi. Des fois, c'est super, puis d'autres fois, ça fonctionne pas parce que c'est pas des voix qui sortent de la Première Guerre mondiale. Tu sens que c'est des voix qui ont ce timbre contemporain. Oui. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas, je sais pas, peut-être un peu plus éraillé. Alors, c'est peut-être nous aussi qui nous faisons cette propre projection de ce que peut-être peuvent être.
Est-ce qu'il y a une voix du début,
voilà,
du XXe siècle?
Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à acheter. Mais alors, ce qui est hallucinant, ce qui est génial, c'est que Weta a développé un nouveau logiciel, en fait, qui leur permet, en fait, de passer du grosso merdo 12 images par seconde aux 24 images par seconde aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui calculait les images manquantes pour redonner au mouvement et au déplacement en fait, des personnages qui étaient filmés sa fluidité naturelle, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as plus ce côté un peu saccadé, ouais, accéléré, qui te coinçait en fait, dans un truc d'époque. Du coup, tu as une proximité là-dessus. Je disais une partie seulement parce que ça fait aussi partie du projet en fait de Peter Jackson, parce que c'est un vrai film de Peter Jackson. C'est-à-dire que j'ai dit tout ça, je sais que ça a fait un peu scandale. Enfin, j'ai vu quelques voix s'élever en disant mais attention, c'est des archives, on fait pas n'importe quoi avec ça. En fait, Peter Jackson, je crois, je veux pas me substituer à sa parole, mais moi c'est comme ça que je l'ai pris, c'est que c'est un film de Peter Jackson. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où tu fais un film à partir d'une archive, donc à partir du moment où tu vas décider de choisir une archive plutôt que une autre, ou de faire un point de montage, c'est-à-dire ne serait-ce que ça, hein, et peut-être éventuellement de mettre de la musique dessus, tu fais un choix de réalisateur. Lui, il y va à fond pour essayer de retrouver une vérité, on va dire, qui lui serait peut-être un peu plus propre, qui trahirait peut-être un peu les mecs qui ont été filmés à l'époque, mais qui lui est tellement intime que finalement elle te parle, c'est-à-dire que tu retrouves en fait une connivence avec ces pauvres gars en fait qui sont devant l'écran. Et en plus, le grand intérêt en fait du film et le grand principe de mise en scène du film, alors c'est un petit spoil, si vous voulez vous garder la surprise, arrêtez ça tout de suite, mais le mettez-nous quand même des pouces bleus, des machins quand même, partagez, mais arrêtez tout de suite. Mais bref, la grande surprise, c'est qu'en fait cette restauration extrême ne concerne que les instants de vie au front.
Ouais.
Il y a une grosse partie en fait une bonne partie du film, à l'introduction et en conclusion, qui concerne ce qui s'est passé avant, la déclaration de la guerre, l'entraînement en Angleterre, les classes, quoi, en gros, ouais, comment tu pars, etc. Et une fois que tu arrives au front, l'écran s'élargit, la couleur arrive, le son se met vraiment à envahir en fait, l'image, les mecs commencent à parler, etc. Et là, tu es dans l'horreur en fait, des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et à la fin, quand il retourne à la réalité, tu retournes au noir et blanc, à ce format en plus ouais, carré, etc. C'est un effet bœuf. C'est vraiment monumental, moi je ne le savais pas et tout. Et ce qui me pousse aussi, parce que je crois qu'on peut voir le film par des moyens illégaux, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais bon, c'est un secret de Polichinelle.
Ça n'existe pas.
Voyez-le au cinéma, c'est dommage, quoi. C'est-à-dire que voilà, le Warner a au moins... ils prennent ce pari-là en fait de le distribuer en salle. C'est un film de cinéma vraiment définitivement pour avoir le plein pouvoir en fait de ces images-là. Et alors là, moi d'un côté je suis très content que Warner le sorte en cinéma. D'un autre côté, ils ne le sortent pas en 3D. Et même pour en avoir parlé avec les attachés, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas forcément très au courant qu'il existait une version en 3D puisqu'il a aussi dimensionnalisé. Alors moi, je ne l'ai pas vu en relief, du coup, oui, mais je pense, j'imagine que c'est aussi que cette partie oui, au front. Voilà. Donc ça, c'est pour la forme. Après, qu'est-ce que raconte le film? Et c'est là aussi où c'est génial, c'est que déjà, le film s'ouvre. Ce n'est pas un pinsum pacifiste. Ce n'est pas un truc, on va dire, ah, la guerre, c'est moche, etc. Et ce n'est pas non plus... Ce sont des expériences extrêmement intimes, extrêmement quotidiennes, en fait, des poilus. Et... donc, ce n'est pas non plus une analyse sociale, en fait, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as deux, trois trucs où tu te dis, bon, oui, effectivement, enfin, c'est probablement des grands industriels qui étaient là derrière et qui avaient, enfin, en tout cas, qui tiraient un intérêt, en fait, de ce conflit armé. Bon, tu sens qu'il y a deux, trois trucs comme ça, de petits sous-textes, en fait, mais le film n'est pas là-dessus. Le film est vraiment sur, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que ça voulait dire en fait de supporter en fait cette guerre-là? Et du coup, déjà, le film s'ouvre sur des vétérans qui disent si c'était à faire, je leur ferais. C'est les plus belles années de ma vie. Des trucs comme ça en fait qui prennent complètement à rebrousse-poil où tu dis ça va être plus compliqué que ça en fait. Ouais. Je veux comprendre que les mecs ils ont vécu un truc qui est tellement fort que c'est plus compliqué que ça. Tu peux pas juste dire la guerre c'est dégueulasse quoi. Et après, ce qui est incroyable, c'est que le film alterne, si tu veux, entre des choses que tu peux attendre sur qu'est-ce que c'est que monter baïonnette au canon, en fait, sortir de la tranchée pour aller flinguer dans le blanc des yeux, tu vois, les mecs, les Allemands qui n'ont rien demandé à personne et qui sont tout jeunes de l'autre côté. Et puis, comment on fait caca, en fait, quand on... voilà. Et c'est ça, et c'est aussi le truc qui est hallucinant, c'est que tu rigoles beaucoup, en fait. il y a plein de trucs en fait où tu te dis ah, mais c'est pittoresque en fait, c'est toutes les expériences dramatiques en fait, je pense, hein, les expériences à partir du moment où il y a de la vie dedans, il y a une ironie en fait qui se dégage de certaines situations, de certains contextes, etc. Et alors le truc et un autre point de vue de mise en scène que je trouve très fort, moi qui m'a fait beaucoup penser d'ailleurs à Voyage au bout de l'enfer de Céline, enfin en tout cas au début de Céline, puisque le début se passe aussi pendant la Première Guerre mondiale.
Tout à fait.
C'est que, évidemment, il n'y a pas d'image d'archives quand les mecs ils vont défourailler, quand ils vont tuer. Et du coup, c'est un truc que Peter Jackson pose avant. Ce sont des illustrations en fait, d'époque qui viennent supplanter au manque en fait, d'images que tu as. Et c'est hallucinant parce que, avec les témoignages et avec tout ce que tu as accepté en fait, auparavant comme principe de cinéma, tu achètes complètement ces images-là. Elles font partie aussi de ton expérience, sauf qu'elles te plongent. Tu es passé en fait de cette espèce de, j'allais presque dire naturalisme, c'est pas trop le cas, mais enfin voilà, un truc très réel, à une espèce d'abstraction qui est tout aussi réelle viscéralement.
Ouais.
Et comme si seule cette espèce de retranscription un peu stylisée, parce que c'est pas vraiment non plus des dessins hyper réalistes, était capable en fait de te faire ressentir ce qui est l'horreur absolue, totale, en fait, de tuer, d'être tué et de risquer ta couenne dans ces conditions-là. C'est une expérience, je trouve, hallucinante. Et pour conclure, parce que je vois que t'en as marre...
J'en ai jamais marre.
Mais pour conclure, il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure en fait, du rapport au documentaire en fait, et du fait que Peter Jackson assume totalement son point de vue d'auteur en fait, sur ce qu'il a fait de ses images d'archives. Et ce qui est ahurissant, en fait, c'est que tu retrouves son œuvre dans le film. Ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et que tu retrouves à la limite un peu du Seigneur des Anneaux, c'est logique parce qu'on sait que Tolkien a fait la Première Guerre mondiale, qu'il en a tiré une expérience qu'il a insufflée en fait, dans ses romans, etc. Donc ça, tu peux t'y attendre, que tu retrouves des choses, peut-être de Lovely Bones, tu t'y attends. Tu retrouves aussi des choses de Brendet, par exemple.
Plus inattendu.
Bah oui, mais en même temps, c'est totalement logique. Et je pense même que, Peter Jackson, il est assez obsédé en fait, par la Première Guerre mondiale depuis longtemps. C'est-à-dire que la première écriture de son remake de King Kong était aussi, sur plein d'aspects, une excuse de mettre en image en fait, la Première Guerre mondiale. Je ne parle pas du film qu'il a fait au final, je parle du scénario, qu'il avait écrit avant de partir sur le Seigneur des Anneaux. Et il collectionne les avions de guerre. Enfin, voilà, il avait lancé aussi avec Weta Workshop une collection de maquettes aussi là-dessus et tout. Et je pense que ça l'habite en fait depuis très longtemps. Ouais. C'est là, c'est présent quelque part. Et je pense que dans le rapport au corps humain, à sa dégradation, à la façon dont on l'abîme et aussi à l'humour noir comme, j'allais dire, dernier refuge en fait, dernier bastion de l'humanité quand t'es plongé dans un cauchemar complet comme ça, il y a du Brendet dedans. Et je vous dirai pas les exemples, il y en a 2-3 en fait pour moi, mais tu peux pas t'empêcher en fait de penser à ça. Et c'est rien que pour ça aussi, si vous aimez la Première Guerre mondiale, si vous aimez si vous aimez cinéma, tout ça, mais rien que si vous aimez en fait Peter Jackson, allez-y. Je pense que on en reparlera plus tard, mais la vision qu'on a de l'œuvre de ce cinéaste qui est quand même important ne sera pas complète si on n'a pas vu ce film.
Qui s'appelle donc Pour les soldats tombés en VF.
Ouais, drôle.
Traduction
drôle
très très bizarre.
Exactement.
Alors que le titre originel qui est donc They shall not grow old, ils ne vieilliront pas.
Dédié à son aïeul et à l'aïeul de Fran Walsh qui s'accompagne.
Très bien. Et donc oui, ils ne vieilliront pas, c'était quand même vachement plus joli en VO, mais bon, tant pis, c'est quand même à voir au cinéma. On l'a dit, merci Julien, merci à Solène à la technique Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.